C'est donc si passionnant, l'histoire.
C'est la science par excellence qui nous enseigne le vrai gouvernement des hommes et du monde.
Cette semaine, une série de rediffusions consacrée aux écrivains. Et aujourd'hui, une émission du 21 juin 2016. Guillaume Apollinaire.
Apollinaire n'avait qu'à copier une affiche, un entrefilet de journal, un télégramme oublié au bureau de poste, immédiatement se produisait une métamorphose. Car, fils d'Apollon, il tenait du dieu le privilège de pouvoir changer un arbre en jeune fille et n'importe quoi en merveille.
Pendant sa période de fécondité où il multiplia les métamorphoses, mais qui ne dura que 15 ans seulement, il fut un phare et une balise. Le phare du poète qui, voyant un de ses calligrammes, où il voulait représenter sur le papier quelque chose de l'acte d'écrire et de son mouvement, n'a été tenté de l'imiter. La balise du critique, il accompagna ce qui naissait d'important et qu'on appela le cubisme, le fauvisme, etc. Mais il y avait aussi le cinématographe, il disait le ciné, les arts passionnés, les arts populaires le passionnaient comme les arts nègres. Il fut toujours en mouvement à l'affût des inventions, la radio ne lui échappa pas, dont il s'essayait de reproduire la distorsion des ondes. J'ai du mal à faire la radio aujourd'hui. Engagé en 1914, blessé en 1916, atteint au front. Il meurt le 9 novembre 1918. Homme de l'avenir, souvenez-vous de moi. Je vivais à l'époque où finissaient les rois. Il naissait chaque jour quelques hommes nouveaux. Le fer était leur sang, la flamme leur cerveau. À peine Apollinaire avait-il disparu que des générations se levèrent qui parlaient sa langue. Ce fut un homme épique, mais aussi un homme époque. Après lui, les apparences que prend le monde ont changé. Et pour décrire leur renouvellement, nous utilisons encore les mots qui furent les siens. Phare, balise et horloge du lendemain.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Laurence Campa, bonjour.
Bonjour Jean.
Vous participez à la grande exposition Apollinaire de l'Orangerie à Paris. Vous avez donné une biographie magistrale d'Apollinaire chez Gallimard, édité plusieurs correspondances importantes d'Apollinaire. Cette année, celle avec le collectionneur et le galeriste Paul Guillaume. On me bâtit peu à peu comme on bâtit une tour.
Oui, ça vient du poème Cortège. Il a bien eu la prescience, la sensation de cette construction. Du fait d'être un homme public, d'appartenir un peu à tout le monde. Et ça fait 100 ans qu'on le construit. Chacun apporte sa pierre, son parpaing, son élément. Voilà.
Dans le catalogue de l'exposition Le regard du poète de l'Orangerie, vous écrivez « Le hasard n'a pas fait don à Apollinaire d'une famille conventionnelle, un an, et d'une éducation bourgeoise. Il n'a pas de père connu. Et sa mère vit à l'ombre des casinos où elle espère faire fortune et l'emmène comme ça de ville thermale en cité balnéaire. »
Oui, c'est ce qu'on pourrait appeler une aventurière, comme on disait au XIXe siècle. Mère quand même, soucieuse de sa progéniture. Il a un demi-frère, un frère ou un demi-frère, on ne sait pas très bien. Et c'est par elle qu'il mène cette vie un peu pérégrine, qui le fait aller de l'Italie, de Rome où il est né, à Bologne, puis sur la Côte d'Azur, Monaco, Nice.
Elle essaye de redonner du lustre à la famille de petite noblesse lituano-polonaise dévaluée dont elle est issue. En 1893, une loi oblige les étrangers qui résident depuis au moins 8 jours en France à déclarer leur identité et leur lieu de résidence et Guillaume Apollinaire, qui ne porte pas ce nom, à cette époque, est obligé d'obtempérer en 1899.
Kostrovitsky.
Encore un breton, ça. Wilhelm. C'est allemand, ça. Wilhelm. Nationalité italienne. Qu'est-ce que... Italien-russe.
Ma famille qui s'est fixée en Italie est d'origine polonaise. Son berceau étant situé en territoire russe.
Oui, c'est très clair votre affaire. En somme, vous êtes italien, polono-russe. Qu'est-ce qu'on est fait à Paris?
Monsieur, à la question profession, j'ai répondu. Employé de commerce.
Alors, Kostrovitsky vient né le 26 août 1880 à Rome. Père, Ah, tiens, vous avez oublié de mentionner le nom du père.
Je n'ai pas oublié, monsieur.
Ah bon? Bon, alors vous n'avez pas oublié, nom du père, néant. Mère, Angelica Kostrovitsky. Ah ben, vous portez le nom de votre mère, vous. 9 rue de Constantinov, ça va. Bon, voilà votre permis de séjour d'étranger. Voilà, monsieur Kostro quoi ?
C'est le téléfilm de Marcel Camus de 1980. Fils naturel et en plus considéré comme un bâtard par les Français.
Avec un nom imprononçable, plein de Y, de W, de T, etc. Et encore un nom qui était pas tout à fait le même au départ, qui était Kostrovitsky à la polonaise, et que sa mère, justement, avait russisé. Et elle s'était mis une particule en plus, donc ça donnait deux Kostrovitsky. Et son fils, elle l'a toujours appelé Wilhelm à l'allemande.
Employé de commerce, il ne le sera qu'épisodiquement, puisqu'il sera poète et rédacteur dans des petits journaux à partir de 1902-1903, plus tard à l'Intransigeant qui est plus important. Ça lui ouvre la porte des ateliers, des salons de peinture.
Ah, il s'est toujours intéressé en fait à la peinture. Il rencontre, on en reparlera peut-être tout à l'heure, Picasso très tôt en 1905, mais c'est simplement à partir de 1910 qu'il devient critique d'art attitré. Et là, en effet, il fréquente du coup les ateliers, les grands salons de peinture, toutes les manifestations. Il est invité partout et il est très lu. On oublie peut-être qu'à l'époque, n'importe quel journal, et il y en avait plusieurs par jour, avait sa page ou sa rubrique peinture. C'est-à-dire que le visuel passait par là, en fait.
L'Orangerie, l'exposition s'intitule « Un regard en liberté ». Vous aimez sa liberté d'approche?
Oui, parce qu'elle touche à tout. C'est à la fois, elle est à la fois esthétique, personnelle, morale aussi. C'est quelqu'un qui ne s'embarrasse pas justement avec la morale, qui n'est pas immoral mais plutôt amoral, et qui n'a pas de préjugés, qui est capable d'apprécier toutes sortes de choses dans des registres très divers, qui est curieux, qui est ouvert. Et qui nous aide à voir des choses qu'on ne verrait pas forcément.
Mais c'est une critique querelleuse que celle de ces publications modestes. Une critique qui ose et qui s'expose.
C'est une critique engagée, bien sûr. C'est une critique qui s'expose, c'est une critique de parti pris. On pourrait dire plus neutrement que c'est une critique d'accueil. Donc c'est une critique qui réagit de manière très sensuelle, viscérale, et qui défend ce qui est en train de se faire. Donc elle n'a pas de recul.
Alors on ne va pas accompagner Apollinaire avec ses frères siamois, tous ceux très nombreux qui l'aidaient, cubistes, fauvistes. Non, on va s'attarder sur Picasso, comme vous le recommandez, Laurence Compas. Le jeune homme entra dans une maison sans étage, il y avait sur la porte, nous sommes en 1905, entrée des ateliers. Il toqua et derrière la porte, les pas lourds d'un homme, qui portait peut-être un fait très pesant, et quand la porte s'ouvrit, ce fut, dans la brusque lumière, la création de deux êtres et leur mariage immédiat.
Oui, c'est très beau, c'est très légendaire. C'est-à-dire que là, c'était une partie du poète assassiné, qui est une sorte d'autobiographie mythique où Apollinaire se présente sous les traits de Cronia Mental et présente Picasso sous les traits de l'oiseau du Bénin. Et c'est leur rencontre. En fait, ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Ils se sont rencontrés dans un café du côté de Saint-Lazare, un café anglais. Mais c'est ainsi que Apollinaire le raconte dans Le poète assassiné, parce que ça permet justement d'exprimer toute l'intensité en fait de cette rencontre absolument capitale pour eux déjà personnellement, mais aussi pour l'art moderne.
Philippe Lançon dans Libération parle de frères siamois.
Ils tiennent par la tête, par les mains. Ça, je ne sais pas par où ils sont raccordés en fait. Ils sont très différents quand même de personnalité, mais il y a eu une véritable amitié, une véritable proximité, une compréhension. Mêlée d'orage aussi, hein. Ça n'a pas toujours été très simple. Par exemple, au moment où il y a eu l'affaire du vol de ce qu'on appelle les statuettes ibériques, qui a valu une semaine de préventive à Apollinaire, à la santé, la Picasso l'a renié, alors que c'est, il avait conservé les fameuses statuettes volées par un ami d'Apollinaire. Il y a eu parfois des dissensions. Parfois, Picasso n'a pas toujours répondu aux attentes importantes de son ami poète. Mais il y a eu entre eux un compagnonnage lyrique, plastique, de très grande ampleur. Et ensuite, Picasso, après la mort du poète, a continué à honorer sa mémoire et on lui doit le monument qui se trouve à Saint-Germain-des-Prés.
Avec le portrait de Dora Maar. Mais c'est une autre compagne de Picasso qu'on va entendre ici, qui n'avait peut-être pas intérêt à ce que la relation s'approfondisse entre Apollinaire et Picasso. Elle avait souvent la dent dure. Elle s'appelle Fernande Olivier. La voici. Et ensuite, elle présente Apollinaire comme un dragueur. On verra Apollinaire à l'œuvre avec une peintresse, Marie Laurencin, qu'il a peut-être rencontrée un peu aussi par l'intermédiaire de Picasso.
Apollinaire était déjà un garçon, pas aussi gros qu'à la fin, mais bien en chair, bien rond, avec sa figure longue, ses yeux en parenthèse, sa petite bouche toute petite avec des mains de prélat. Il avait des mains extraordinaires. Il s'amusait de tout et il amusait tout le monde. Il avait un gros rire éclatant. Il allait de fleur en fleur, c'est-à-dire de femme en femme. Et il était très aimable. Un peu trop.
Vous êtes journaliste ?
Si l'on veut, et surtout pardon ou par malédiction du ciel, poète.
Quelle chance !
Pourquoi ?
Mais de rencontrer un poète !
Vous savez, lorsque je suis entré chez Sago, je vous ai reconnu.
Mais vous ne me connaissiez pas ? Vous ne m'aviez jamais vu ?
Si, je vous assure, reconnu. Votre visage sombre, qu'étoile vos yeux remueurs comme deux oiseaux au plumage brillant. J'ai reconnu vos cheveux touffus et sombres, comme mer qui moutonne.
Je souhaite dans ma maison une femme ayant raison, un chat passant parmi les livres et des amis en toute saison. C'est difficile de faire couple stable. Néanmoins, avec Apollinaire, elle a raison, Fernande. Il va de fleur en fleur. Il est très infidèle à Marie Laurencin.
Ça contredit un petit peu la chanson du mal-aimé. Mais il y a l'homme et il y a le poète, déjà. Et l'homme était certainement, d'après tous les témoignages, et les témoignages de femmes notamment, très séduisant. On a du mal à l'imaginer parce qu'on a très peu de photographies, qui sont des photographies assez tristounette, assez figée, mais on veut bien croire ces témoignages. Mais lui, il s'est vécu comme poète sur le mode du poète mal aimé. Et c'est certainement quand il souffrait le plus, il le reconnaît lui-même, que son chant s'élevait le mieux.
À Picasso, il offre un exemplaire des 11 000 verges, dès 1907. Je vous trouve un peu discrète dans votre biographie de Gallimard, qui est pourtant une biographie à 360 degrés, absolument gigantesque, sur la production érotique d'Apollinaire.
J'en parle pourtant. J'en parle, mais effectivement, j'en parle avec autre chose. Donc, du coup, ça se dilue, mais je sais, Jean Lebrun, vous n'êtes pas le seul à me poser la question. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent beaucoup à cette production érotique et je dirais même pornographique, parce qu'après tout, Les 11 000 verges est un roman pornographique publié sous le manteau en 1907, qui a eu tout de suite son petit public d'initiés. C'est devenu, on a fini par savoir, c'est un peu un secret de Polichinelle, on a fini par savoir que c'était lui. On s'est mis à collectionner les éditions des 11 000 verges. Pierre-Louis notamment en avait un exemplaire. Parce que justement, comme je le disais tout à l'heure, Apollinaire n'avait pas du tout de préjugés moraux et donc estimait que l'amour, sous toutes ses facettes, était aussi une forme de fécondité et liberté. Donc pourquoi pas ?
On ne racontera pas la visite dans les 11 000 verges du prince de Belgrade au vice-consul de Serbie en présence d'amants monténégrins. Non, vous décrivez plus longuement le quartier d'ici. Où est installé Marie Laurencin, le quartier proche de la maison de la radio ?
Il est venu en fait s'installer, il était au pied de la butte Montmartre, il est venu s'installer rue Gros, puis rue La Fontaine pour se rapprocher d'elle, parce qu'elle habitait avec sa mère à côté. Et il faut s'imaginer qu'à l'époque, c'était un quartier très excentré, c'est comme si on venait vivre à la campagne. On a un petit peu de mal à le croire maintenant quand on vient vous voir à la maison de la radio. Un quartier un peu excentré où il pouvait flâner, et il faisait de longues promenades, et il allait dans Paris en passant par les berges. Et c'est pour ça aussi qu'on a des poèmes qui rappellent ces sensations de promenade, comme le pont Mirabeau qui est connu, ou encore Marie.
Alors Marie, ici interprétée par Léo Ferré.
Vous y dansiez, petite fille, y danserez-vous, mère grand? C'est là ma clotte qui sautille, toutes les cloches sonneront. Quand donc reviendrez-vous, Marie? Marie, les masques sont silencieux et la musique est si lointaine qu'elle semble venir des cieux. Oui, je veux vous aimer, mais vous aimez à peine, et mon mal est délicieux. Marie, les brebis s'en vont dans la neige, flocons de laine et ceux d'argent, des soldats passent et que neige, un cœur à moi, un cœur changeant, changeant et puis encore. Que sais-je?
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Marie.
Avec Laurence Campa qui a participé de très près à l'exposition Le regard du poète, Apollinaire, c'est à l'Orangerie. Voyez les applaudissements qui accompagnent Léo Ferré. Mais vous n'aimez pas Léo Ferré?
Non, je l'apprécie guère, on va dire. Mais ça me fait plaisir de l'écouter.
Oui.
Parce qu'il retrouve cette fluidité mélancolique qui est bien celle du poète.
Les brebis s'en vont dans la neige, les soldats vont partir au combat parce que voici la guerre. Des géants furieux se dressaient sur l'Europe, les poissons voraces montaient des abîmes, les peuples accouraient pour se connaître à fond. Lui choisit de s'engager parce que les hommes français sont mobilisés, mais les étrangers comme lui risquent d'être immobilisés.
Expulsés, envoyés en camp de concentration ou bien d'autres choses. Mais surtout, en fait, il est en France depuis très longtemps. Il écrit en français. Et il dit qu'un poète n'est jamais étranger dans la langue qu'il emploie. Donc, pour lui, il est poète français. Et puis, c'est une manière aussi de...
Il a demandé sa naturalisation.
Voilà, il demande sa naturalisation, reprises. Mais c'est parce qu'une loi, la loi du 4 août 1914, permet d'accélérer la naturalisation des étrangers engagés sous les drapeaux. Il le fait, Blaise Cendrars le fait aussi, ils sont plusieurs à le faire. Et pour lui, c'est une manière aussi de trouver une forme de stabilité, de reconnaissance. On a dit tout à l'heure qu'il venait d'une famille quand même très instable, avec une mère instable. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il n'a jamais été véritablement bohème. Il a toujours cherché une forme de reconnaissance sociale et de stabilité. Et
s'engager, c'était ça. À la France, c'est ça s'engager.
Oui, c'est peut-être aussi avait-il l'idée de payer une sorte de dette à son pays d'accueil. Et puis surtout l'idée de participer à l'action collective. Il ne pouvait pas imaginer, en tant que poète, se trouver à l'écart, être dans une tour d'ivoire ou partir en Espagne ou en Suisse comme on lui avait proposé.
Et comme l'ont fait les Delaunay, comme, qui faisaient partie de...
Comme l'a fait Robert Delaunay,
de ses amis.
Effectivement.
Et oui, Robert Delaunay est maudit à partir de ce moment-là.
Oui, ils se sont fâchés un peu avant pour des questions esthétiques, mais évidemment ça n'a rien arrangé.
Mon cher André Dupont, merci de votre carte, votre douce tartine est mère de ma tarte. Bon, j'ai tant aimé les arts que je suis artilleur. L'art du canon est l'art de tout bien mesurer. Voilà tout le secret de la guerre où nous sommes. Le reste est dans la joie et la vertu des hommes.
C'est une boutade. C'est une boutade, mais c'est une boutade qui lui permet aussi de dire quelque chose d'assez profond, parce que dans ce jeu de mots, art, artilleur, il y a aussi l'idée qu'on est dans une guerre mécanique. Et que la reine des batailles, ce n'est peut-être plus l'infanterie en 14, mais bien l'artillerie.
C'est obus roi.
Obus roi. Alors ça, c'est une autre boutade. Il était tellement content de ces deux boutades que, en fait, quand on lit ces lettres de cette période-là et de ces jours-là, il le répète à tous ses correspondants qui réagissent diversement suivant les cas. Et obus roi, c'est évidemment référence à Jarry, mais aussi pour signifier une forme d'absurdité. Mais sous une forme implicite, déguisée, il n'y a pas de condamnation directe.
Mais il est d'une certaine manière, ébloui par la guerre supramécanique.
Ébloui, peut-être alors, il faudrait le dire au sens propre. Enchanté, certainement pas, mais totalement fasciné. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'il partage aussi avec un certain nombre de témoins. Il y avait quand même, ils ont eu conscience d'appartenir, de faire partie de quelque chose de totalement inouï, d'atroce, de tragique et d'inouï. Et ça les a fascinés au sens propre.
Alors, vous n'aimez pas Léo Ferré, vous l'avez entendu. Vous adorez André Breton. Le voici dans un témoignage tardif. André Breton, pendant la guerre, il a été employé à l'hôpital psychiatrique de Saint-Dizier pour déjouer les simulateurs. C'était pas toujours glorieux, hein, comme position.
Il faisait un peu ce qu'on lui disait de toute façon, mais ça lui a permis aussi d'être en contact avec une parole qui était une parole qu'on n'écoutait absolument pas. La parole des fous.
Il reproche, témoignage tardif, 1952, un certain conformisme pendant cette période de nationalisme échevelé à son ami Apollinaire.
Il s'était engagé dans l'armée. Ceux de ses amis qui avaient pu rester en contact se communiquèrent ses nouveaux poèmes. Y passait toujours la même flamme, mais rien n'y marquait une prise de conscience appréciable des événements. Tout se résolvait par un enthousiasme à coup sûr sincère, mais qui rejoignait alors l'enthousiasme de commande et, en dépit de l'expression toujours très neuve du sentiment, ne laissait pas pour moi de verser dans le conformisme.
Rectifie la hausse, plus près! Vas-y, on les aura!
Ah, Dieu, que la guerre est jolie! Avec ses chants, ses longs loisirs. Cette bague, je l'ai polie. Le vent se mêle à vos soupirs. Adieu. Voici le bout de sel. Il disparut dans un tournant et mourut là-bas. Tandis qu'elle riait au destin surprenant.
Dans le téléfilm de Marcel Camus, Jean-François Balmer dans le rôle d'Apollinaire. C'est étrange, c'est à des femmes. Alors Marie n'est plus là. Il y a Louise de Coligny, Châtillon.
Lou.
Puis Madeleine. Il y aura sa femme officielle à la toute fin, Jacqueline. C'est à des femmes qu'il s'adresse pour raconter tout de la guerre. C'est étrange.
Oui, parce qu'il est dans un environnement masculin. Il a besoin justement de s'adresser à des femmes. Et si on revient à ce poème qui lui a fait quand même beaucoup de mal, parce qu'on en a très longtemps retenu que le premier vers, justement, puisque vous me parlez des femmes, c'est un poème de la désillusion et de la femme fatale et cruelle. Ça finit par une mort, et pendant que lui meurt dans un tournant, parce que de toute façon c'est le sort de la guerre, elle rit au destin surprenant. Il n'y a pas tellement de différence finalement avec la chanson du mal-aimé, du point de vue du rapport à la femme. Et c'est Marie Laurencin, qui était alors en Espagne, qui lui avait demandé des poèmes. Et il lui envoie un cycle de 7 poèmes, dont celui-ci. C'est un poème très mélancolique, pas du tout belliciste, pas du
oui,
tout enthousiaste.
Mais longtemps aux femmes avec qui il correspond pendant la guerre, il affirme la puissance de la guerre, ce qui lui permet de dire sa virilité. J'attends, dit-il à Lou, l'assentiment définitif à ma puissance que tu me donneras. Je te désire en ce moment à faire sauter, pardonnez-moi, Laurence Campa, à faire sauter ma braguette d'artilleur.
Oui, c'est l'esprit de conquête, non? C'est pas comme ça s'appelle? L'esprit de conquête, l'orgueil viril, puis c'est vieux comme le monde. Ovid le disait déjà, militat omnis amans. Il y a dans chaque amant un soldat, en fait. Et l'amour, c'est aussi une guerre, c'est aussi. Et en fait, c'est très profond, si on y pense. L'amour comme guerre.
Les mois ne sont pas longs, ni les jours, ni les nuits. C'est la guerre qui est longue. En mars 1916, une semaine après avoir été naturalisé, il est blessé, atteint au front. Il est soigné à Paris, à l'hôpital italien. Une plaque de cuivre et un bandage, désormais, vont recouvrir sa tête. C'est la dernière figure qu'on connaît de lui. Il est revenu dans la capitale où il travaille dans les bureaux, ceux de la censure. Et à cette époque-là, Jean Cocteau le recherche avec assiduité.
Apollinaire habitait boulevard Saint-Germain, dans un dernier étage, plusieurs petites pièces reliées les unes aux autres par des escaliers de navire. Il s'y mouvait, il y déchiffrait les astres, il y hissait ses voiles en uniforme bleu, sous un émouvant turban de linge, parmi les statues nègres, les toiles cubistes, les livres, les jeunes revues, ses portraits de Marie Laurencin et du douanier Rousseau. Il écrivait dans la plus haute cabine où ses fétiches de navigateur étaient un exemplaire des serres chaudes de Maeterlinck et l'oiseau du Bénin sur ses pattes de cuivre. Il avait la voix courte comme essoufflée. Ses yeux, ses doigts semblaient ne toucher que des choses exquises et légères. Je ne sais pas pourquoi, je l'imagine toujours en train de dérouler le fil de quelques cerfs volants. Je pense aussi à ces hardiesses aériennes lorsque Notre-Dame porte le gui charmant d'un échafaudage.
Notre-Dame porte le gui charmant d'un échafaudage. Ils fabulent tous, oui, quand ils parlent d'Apollinaire.
Oui, oui, parce que le personnage s'y prête, et puis parce que le souvenir, certainement, lustre, métamorphose le personnage initial. C'est très beau, cette image du navire, justement, tout en haut du boulevard Saint-Germain. C'est comme ça qu'il se le rappelle, et c'est comme ça qu'il a envie de le garder vivant. Et c'est ça aussi que nous sentons, nous voyons à travers cette figure.
Les derniers mois à Paris sont extrêmement actifs, même s'il est pris de temps en temps d'accès de dépression. Sculpture nègre, on a entendu Cocteau évoquer L'oiseau du Bénin, c'est un livre de 1917, le poète assassiné que vous avez déjà cité, Les mamelles de Tirésias. Ça, c'est un livre sur la puissance virile. Un homme qui est capable de féconder tant et tant qu'il va donner à la France des milliers d'enfants.
Oui, mais il le fait tout seul, parce que sa femme, justement, a décidé de se débarrasser de ses mamelles et d'aller vivre sa vie, une vie d'homme. Donc il faut bien qu'il se débrouille tout seul. C'est aussi l'angoisse, justement, de la façon dont les femmes ont pu, pendant la guerre, occuper des postes qui n'étaient pas traditionnels pour
elles. C'est sa première expérience de la scène, parce que c'est donné à grand fracas, une vraie expérience.
Oui, une expérience aboutie, on va dire, parce qu'elle avait déjà essayé d'écrire pour le théâtre. Et puis c'était très original, parce que les costumes de Serge Ferrat étaient inspirés du cirque. Il avait voulu une scène en rond, ce qui n'avait pas pu être tout à fait le cas. La musique était aussi assez curieuse. Il y avait des personnages cubistes, on va dire. Et voilà, donc ça n'a pas tout à fait scandale, comme on l'a dit, parade. Mais ça a beaucoup fait couler beaucoup d'encre, en tout cas.
Il rate le Goncourt pendant la guerre pour la deuxième fois. Ça n'a jamais été un auteur pour tous.
Non, non, non. Et en fait, il a eu du mal à s'y résoudre, finalement. Je crois qu'il aurait bien aimé avoir cette reconnaissance-là, mais peut-être que du coup, ça n'aurait pas été le même écrivain.
Apollinaire meurt le 9 novembre 18. Ses amis diront des suites de sa blessure, en fait de la grippe espagnole. Et à son enterrement, on croise le monôme de Saint-Cyr, qui crie, parce que nous sommes le 13 novembre, au lendemain de l'armistice, « Abba Guillaume ! » C'est évidemment du Kaiser qu'il s'agit. Je signale de Laurence Campa, qui était notre invitée, la publication prochaine de Colombe sous la lune, un roman chez Stock. Cette émission a été réalisée par Jacques Sigal, avec à la technique Juliette Delperrou, à la préparation Franck Olivard, Frédéric Martin, Elinka Negulesco. Et demain, dans notre série de rediffusion d'été, Une semaine écrivain, Albert Camus.